has Jordan. Jordan with 2 seconds to go. Puts it up and scores at the buzzer. Michael Jordan has won it for Chicago. Michael Jordan hit the basket at the buzzer. As a hustle and Lenny Wilkins leads the four.
Salut les potos, bienvenue sur Money Time. Ça y est, c'est la fin de la saison NBA, nous allons faire le bilan. Ah non, la NBA s'arrête pas quand Détroit est sorti?
Ah bah non.
Ah merde, je pensais moi. Allez, nous sommes fin mai, les choses sérieuses arrivent, il ne reste que 4 équipes pouvant soulever le trophée Larry O'Brien. Money Time, saison 3, épisode 15. Money Time, c'est votre émission basket sur Graphite 94.9 sur la bande FM, dans laquelle on décortique l'actu de la balle orange et où on décrypte la culture basket sous toutes ses formes. Money Time est présent sur les réseaux Facebook et Instagram et aussi à écouter et réécouter en streaming sur www.graphite.net et vous pouvez même la podcaster. Alors au sommaire de l'émission, l'actu de la balle orange comme d'habitude. Après, on va faire un point sur la Neuroleague et la BetClic Elite. Et oui, c'est les playoffs partout. On reviendra sur les demi-finales de conférence. Il revient grognon, le Bruno Way de retour. Une petite interlude musicale. Et nous passerons aux finales de conférence avec les deux premiers matchs qui ont eu lieu. Deux premiers matchs de niveau très 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 différent. Enfin, on y reviendra. Ensuite... Je l'avais dit dans la dernière émission, mais je vais faire un gros big up à notre Rudy Picard, l'enfant Picard devenu une controverse en NBA. Et notre buzzer beater, la gestion des joueurs va devenir un enjeu pour arriver loin en playoff. Mais avant tout, je ne suis pas seul pour cette émission et entouré de la draft épique de la terre du milieu.
Mon précieux, il nous l'a volé. Il est méchant le Hobbit Joufflu.
C'est qui le Hobbit Joufflu?
Il est à l'origine de la communauté de l'anneau, capable de dégainer et marquer depuis le sommet du Mont Destin. Court tellement vite qu'on dirait qu'il utilise le vent elfique pour se démarquer. Et quand il prend feu, même la pluie de la comté ne peut l'éteindre. Le Stephen Curry du Gondor. Salut Pascal.
Wow.
Je pensais qu'il allait dire que j'étais Gimli, non.
Non, je l'ai gardé pour plus tard.
Je crains le pire.
Une chance sur trois, là.
Il lit la défense adverse avant même que Lohukai ne fasse sa rotation. Il est capable de téléporter le ballon directement dans les mains de son shooter. Et sa devise est « Vous ne passerez pas !» Notre Nikola Jokic de Faucombe. Salut El Président
Salut tout le monde.
Il transperce les raquettes adverses comme l'armée des morts traverse les rangs d'orques, protège l'arceau avec la hargne d'un guerrier défendant ses mines d'or et il a le caractère de Gimli.
C'est lui le nain.
Le crash de Salut Bruno.
Salut. Ah, je suis content.
Enfin, son shoot dégainé au buzzer est aussi précis et tranchant que la légendaire épée reforgée d'Ellen Deal. Et quand il pose un bloc, le balrog s'écrase comme sur un mur de pierre. Et évidemment, nous sauvons tous la terre du milieu. Bienvenue. Salut les amis, comment ça va?
Salut!
Salut!
Alors. Hey, franchement, t'as bossé!
Ah bah écoute,
vraiment, clairement, il y a des rêves!
On écrit, hein! On devient des professionnels.
On devient des littéraires.
Ah ouais, c'est clair. C'est clair.
Bah, t'as vu, j'aime bien le Seigneur des Anneaux.
Ouais, j'ai cru comprendre.
Ah bah, quand c'est
bien. Bah, les trois premiers sont quand même des...
Ouais, il y en a que trois.
Oui, il y en a que trois.
On est parti pour une bonne émission.
Ouais. Bah, c'est ça, Money Time. Hein. C'est mélanger la culture. Pop culture et puis basket. Hein.
Ah, j'ai eu du mal à trouver du basket. Hein. Dans le Seigneur des Anneaux, on a beau regarder...
Tu sais, à un moment, il y a une tête qui vole. On dirait qu'elle retourne un panier, mais c'est... Allez, on y va pour l'actu basket, on revient aux choses sérieuses. Et on va commencer par la fin des trophées décernés en NBA. Avec une énorme surprise, SGA Shilgeous-Alexander, t'as vu, je me suis appliqué, est élu MVP devant Nikola Jokic et Victor Wembanyama. Et la surprise est peut-être là, c'est que Jokic est devant Wembanyama au trophée des MVP, non ?
Ah, quand même, en triple-double.
Ouais, faut pas déconner. Ouais, ouais, ouais.
Je suis peut-être resté sur sa série de play-off qui était décevante.
Non, mais c'est pour ça, ouais. Le MVP, c'est sur la saison régulière.
C'est la saison, c'est pas...
Ouais, mais bon, historiquement, quand tu vois les stats de Jokic, c'est pas déconnant qu'il soit deuxième. Hein.
Ce qui est peut-être du coup étonnant, c'est la différence qu'il y a entre le premier et le deuxième. Elle est énorme.
Ouais, ouais.
Il avait quand même eu 85 votes sur les 100.
C'est 80-20 ou un truc comme ça.
Ouais, c'est beaucoup.
Après, le Thunder est premier, hein, donc, et de loin.
Oui, c'est le meilleur joueur de la meilleure équipe.
Voilà, exactement. Ouais. C'est logique.
Oh, qu'est-ce qu'on est bon. Détroit a gagné un trophée. Celui du meilleur coach. Et ça, c'est pas vu pour les playoffs. Enfin, bon,
c'est vrai qu'ils en ont pas parlé.
On y reviendra. Mais c'est un trophée qui est important parce que celui-là, il est sacré par ses pairs. En fait, c'est les autres coachs qui votent pour le meilleur coach.
Objectivement, il a fait un super boulot.
Oui, oui.
Des trois, faut pas la
mériter. Ouais, moi, je pensais plus que ça allait être celui de Boston. Ils étaient prévus tellement loin, Boston.
Ouais, mais il a mal communiqué sur
oui,
le
oui,
sujet.
Oui.
Il en voulait pas.
Tu t'en fous, tu le donnes à celui qu'on veut.
Ouais, voilà.
Mais il y a un truc pour Boston, t'as vu ? Oh, t'as même pas vu. Ah ouais, t'as lâché la saison, toi.
Boston.
T'as vu et encore un truc de Boston qui s'est passé.
C'est pas Derrick White.
Oui.
Derrick White, il a eu un prix, ouais.
Ah, il est vu.
C'est meilleur coéquipier.
Meilleur coéquipier de la
meilleur ligue. Coéquipier. Voilà. Et puis il y a le meilleur manager aussi.
C'est Brad Stevens.
Brad Stevens.
Ouais, toujours. D'accord.
Okay. Ouais. Bon, nous, on aime bien les.
C'est les trophées pourris, ça, quand même.
Les récompenses de second couteau. Un truc que personne va se souvenir.
Trophée de merde.
On soulèvera rien. Mais
le mec qui sort le mieux le banc.
Le meilleur.
Serpillère qui fuit le parquet.
Le meilleur essuyeur de parquet.
Ouais.
Je dis rien. Nous, Miami, on a rien.
Ouais. Détroit aurait pu aussi avoir la meilleure entrée de joueur parce que celle-là elle claque quand même. Tu sais, quand ils présentent les joueurs et tout avec le feu et tout, c'est sympa.
Ah oui, c'est...
Mais bon, enfin bon, passons à autre chose. Autre actualité, c'est le gros débat après la sortie des Lakers. Mais où va jouer LeBron James ? Est-ce qu'il va rester à LA, faire The Last Dance à Cleveland ou aller dans un autre club ? Mais pour quelle rémunération ? Moi, je partirais plus sur le fait qu'il reste aux Lakers.
Ouais, moi aussi.
Bah, si bon, il ira pas à Cleveland.
Ouais. C'est vrai ?
Non. Ah, ça va foutre un bordel. Sinon.
Oui, c'est ça.
Ouais, mais ce serait tellement.
Tu vas mettre Mitchell, Harden et puis
ils sont obligés de se séparer d'Harden. Hein.
Oui.
Oh merde, c'est cool.
Un bâton pour trois là, c'est compliqué. Ah ouais, c'est con. Cool,
ouais. Bah, sincèrement, après, c'est à peu près le même salaire, non ? Si tu pas de conneries, c'est pas déconnant. Après, il va prendre un dernier salaire. Est-ce qu'il va se dire.
Il y a aussi la rumeur Golden State.
Et je joue un dernier titre. Ou est-ce qu'il va se dire, non, je veux quand même mes salaires.
La rumeur Golden State aussi.
Ouais, avec.
Mais bon.
Si tu veux, soigner un peu ta sortie, il ne faut pas qu'il parte dans une équipe. Parce que tu vas faire une cinquième, quatrième équipe, c'est ça ? Il aura fait Cleveland, Miami
Cleveland,
les Lakers, et il va faire une autre ?
Il va rester aux Lakers.
Ouais, moi, j'aurais bien aimé qu'il aille faire sa dernière année à Cleveland.
Oui, pour le symbole.
Bah oui, l'enfant de l'Ohio qui
Ouais, mais ça fait tout de suite. Là, tu sais que ça va être une tournée d'adieu, et puis c'est pas terrible, quoi. En général, ça se finit pas.
C'est comme Wade quand il est retourné à Miami pour finir sa carrière, tu vois. Mais c'est beau pour le symbole quand même.
Oui, voilà, c'est bien. Ouais, après, tu reviens, t'as pas de prétention. Oui, c'est sûr que s'il veut jouer 35 minutes.
Ah ouais. Bon, je pense que Cleveland, là, ils ont. Une autre timeline. Là,
oui, parce qu'on parlera qu'ils vont en après. Mais s'ils foirent leur play-off et qu'ils se font sortir, à un moment, ils vont devoir...
Ils sont déjà en finale de conf. T'as pas raté ta saison, quoi.
Non.
Enfin, on a appris lundi que les Spurs faisaient leur retour à Paris pour y affronter de terribles Pelicans de la Nouvelle-Orléans.
Les mouettes.
La vraie info, c'est que Wemby revient en France, date janvier 2027. J'ai pas les tarifs. Mais si quelqu'un a deux places, je veux bien me sacrifier.
Après, il faut juste les choper, quoi, parce que c'est un tirage au sort. Enfin, c'est un tirage au sort. C'est ça. Hein,
c'est comme les JO. Ouais.
Ouais.
Ce sera moins cher que le premier match de play-off à New York. Hein.
Ouais. Un peu place, tout en haut.
La place la moins chère, tout en haut, où tu vois rien, elle était à $700. Et le prix moyen était à 8000 dollars. Ouais. Le prix moyen. Il y avait les places devant là, qui se vendaient plus de 100 000 dollars.
Tu sais, j'y suis allé en 2008. J'ai payé, à l'époque, j'ai dû payer 25 euros ma place.
Ouais, mais en saison régulière, apparemment, c'est un lieu. Enfin, c'est plus un lieu touristique.
Mon neveu est allé il y a trois ans pour voir les playoffs. Et il a payé. Alors, en euros, il a payé 500 euros quand même.
Ah ouais, pour 48
3
minutes.
Ans.
Ah
ouais. Donc tu vois l'inflation.
T'es tombé sur un blowout, quoi.
Bon, c'était son cadeau d'anniversaire, je fais un big up.
Voilà, on fait tout ce qu'on disait en famille. Tu vas pas être à moins de 500 balles, je pense.
Ah non, c'est clair.
Ensuite, on a appris qu'un nouveau coach a été démis de ses fonctions. Et oui, aujourd'hui, Jason Kidd quitte Dallas pour, après les avoir menés en finale il y a quelques temps. Et le projet a complètement éclaté à Dallas. Je pense qu'on remet tout à la poubelle. On met Cooper Flagg sur le terrain, on va l'entourer et on va repartir sur un nouveau projet.
Il a quand même avalé des couleuvres, hein, Stephen Kidd.
C'est des bois qu'il a avalé. Là.
Après, il l'avait annoncé, le nouveau...
Masai Ujiri.
Manager, il l'avait dit là que...
Il avait dit qu'il
ne le retiendrait pas. Voilà, c'est ça.
Alors, il y a beaucoup de place à prendre là quand même. Hein. Mais alors, il y en a beaucoup qui vont être récupérés. T'as vu, même Billy Donovan qui était déjà annoncé à Orlando, ça y est, c'est peut-être même pas sûr que ça va être lui.
Ils ont toujours pas de coach.
Non,
Orlando.
Chicago, non, bah, c'est les Pelicans. Quoi.
Par contre,
c'est le coach d'Orlando.
C'est lui. Ils ont été vite à le signer, hein, c'est bizarre.
Oh, bah oui, mais il était peut-être pas cher.
Ouais.
T'es payé en fonction de tes compétences.
Hein.
C'est gratuit.
Quand tu vois le nombre de coachs qui sont démis de leur fonction alors qu'il leur reste des contrats, par exemple, Kidd, il leur reste 40 millions.
Ouais, 40 millions.
Ça veut dire sur 4 ans.
Ils vont continuer à le payer.
Ça fait quand même des grosses sorties d'argent. Quand tu te foires sur un coach et que tu le vires en plein milieu de son contrat ou au début de son contrat.
C'est la même chose que.
Les joueurs. Hein.
Ouais, que les joueurs que Milwaukee avec Lillard là, qui payent 20 millions par an pendant encore.
Ça pèse sur une masse salariale.
Et ensuite, historiquement, il y a 27 ans, les Knicks d'Alan Houston rentraient dans l'histoire en étant un numéro 8 de saison qui battent les numéros 1. Et qui c'était en face? Qui était les numéros 1?
Le Miami.
Un petit big up pour Pascal.
C'était une série épique. Hein. C'était en 5 matchs. Non, 5 matchs.
Le premier tour.
Le premier tour. C'était. Ouais. On a fait la même après Miami, ils ont fini 8e aussi, puis ils ont tout remonté, c'était en finale aussi.
C'était la première équipe qui était 8e qui arrivait en finale NBA. Et ça va pas nous rajeunir, mais Kevin Garnett a 50 ans. Et il y a 22 ans, il faisait le match de sa vie en play-off sur un match 7 contre Sacramento avec les Minnesota Timberwolves en inscrivant 32 points, il avait pris 21 rebonds, 5 contres et 4 interceptions. Attention, il a mis 32 points sur un score qui s'est fini à 83-80. Contre Sacramento, il avait tout écrasé. J'en ai quelques souvenirs de ce match.
Je connais un joueur français qui fait les mêmes stats, mais tous les jours.
mais à cette époque-là, c'était un peu historique. Et enfin, j'ai mis ça dans les news de basket, dans les infos locales. L'équipe de Crépy-en-Valois va jouer la finale d'accession en National 3 pour y rejoindre Beauvais sur un match sec contre Béthune à Lille ce samedi à 17h30. Ça se passe à Lille. Si vous souhaitez des informations, vous y rendre. Si vous êtes dans le coin, vous pouvez aller sur la page Facebook du club de Crépy-en-Valois.
Les Crépy.
Ouais, ils font des bus. Si vous voulez y aller, moi je fais de la pub.
T'as raison.
Et puis il faut qu'ils y aillent.
Ce serait bien d'avoir deux clubs en
mérité.
Ils ont gagné sur les matchs de play-off contre
le Portel.
Le drapeau.
Gagnent de 15 chez eux et ils perdent de 1 là-bas.
Voilà. Où ils n'ont pas joué la dernière.
Dans des matchs très physiques, on va dire.
À Portel, dans une salle qui était comble. Il y avait 500 personnes. C'était la folie. Voilà pour les actus. Après tout ça, on va parler de ce qui se passe en Europe et en France. C'est le moment de la Neuroleague et de la Betclic Elite par El Presidente Baptiste.
Et ouais, ça y est, on y est. L'Euroleague touche à sa fin. J-4. Allez, on y est. Dans 4 jours, on saura qui succédera au Fener. Peut-être le Fener.
Peut-être même.
Oui, parce que le Final Four se déroulera du 22 au 24 mai à Athènes, sans le Panathinaikos. Et c'est ça la grande surprise, je pense, des playoffs.
On en avait parlé.
Où Panathinaikos menait 2-0 après deux matchs à Valence. Et à la surprise générale, Valence a été chercher les deux matchs à Pana. Et a gagné le match 5 chez eux. Donc, bye bye le Pana. Ça nous donne quand même un Final Four assez inédit, puisque la demi-finale opposera le Fener à l'Olympiakos. Et de l'autre côté, on aura un match 100% espagnol avec le Real face à Valence, justement. Match vendredi soir et une finale dimanche.
C'est des matchs secs à chaque fois.
Ouais, là c'est des matchs secs là. Donc,
tu peux pas te rater sur ça.
Je pense que s'il y a un favori quand même qui sort de là-dedans, c'est quand même Olympiakos, vu la saison qu'ils ont fait. Moi j'ai du mal à croire qu'ils aillent pas au bout, parce que franchement, quand on les voit jouer, ils ont sweepé Monaco, c'est les seuls vraiment à avoir dominé les playoffs. Ouais, de l'autre côté, je pense que la surprise peut venir de Valence, entre Valence et Real. Je vois pas le Real passer, on fait une saison moyenne. Valence, c'est une équipe jeune, c'est quand même...
Confiance, là, du coup.
Valence ?
Ouais.
Un peu, ouais.
Tu viens d'en prendre 3. Tu viens de prendre 3 matchs contre le Banner.
Ouais,
ça sera bien pour Fournier, quand même, l'Olympiakos.
Je sais pas s'il va jouer. Il est encore out, je crois. Ça fait un moment qu'il joue pas.
Gagner un titre, quand même, ça serait pas mal.
Ouais, c'est... Mais voilà, donc, rendez-vous dimanche pour la finale.
Faut regarder ça.
C'est ça. Je suis pas sûr que ça passe sur... Peut-être sur l'équipe.
L'équipe 21.
Ouais, l'équipe 21, peut-être. J'ai pas regardé, j'ai pas suivi. Mais sinon, ouais, parce que maintenant, ils ont. Même Squeak l'a arrêté. Maintenant, c'est une chaîne spéciale Euroleague aussi. Donc,
Surveiller sur l'équipe, quoi.
Ouais. Je sais que Monaco TV passe vendredi les matchs. Ils avaient pris l'option.
On est qualifié. Demi-finale, mais on n'y est pas quand même.
Voilà. Et un mot sur la BetClic Elite.
Ah, bah quand même, on y arrive.
On atteint les playoffs aussi, saison régulière terminée. À la surprise générale, c'est Paris Basket qui finit premier.
Ouais. C'est un tel bordel
à la dernière. Ouais, je pense que Monaco, là.
C'est le Dawa.
C'est un peu le bazar. Donc, match ce soir des play-in. Un peu même formule que les États-Unis, 9 contre 10 et 7 contre 8. Le vainqueur de 7 contre 8 passe direct contre Monaco, et après il y a un match du perdant contre le vainqueur de Chalon-Nancy. Play-off, ça se joue en 3 matchs. Donc, à suivre. Je pense qu'il y a quand même deux favoris logiques qui se dégagent chez Paris et Monaco. C'était la finale de l'année dernière. Ouais, Monaco.
Monaco, pour ceux qui suivent pas trop, il y a énormément de problèmes financiers.
Oui.
Les salaires sont plus payés aux joueurs. Les joueurs, il y en a certains qui refusent de jouer.
Ouais. Puis les
trois quarts
ont déjà signé des contrats. Ouais.
Ils ont déjà parti. Ouais. Okobo, Mike James.
Peut-être le bon moment pour jouer contre eux, justement. Quoi. C'est pas génial. Et on va dire un mot de Saint-Quentin quand même, parce que Saint-Quentin finit avant-dernier de
15e, et ils vont jouer
un match de barrage.
Ouais, ils vont jouer les barrages.
Ouais, tous les barrages. Il y a 3 matchs à gagner pour rester en BetClic.
Ouais.
Il y a des demi-finales, il y a des finales de côté, puis après tu fais une finale justement pour celui qui joue.
On espère qu'ils vont. Après, ils étaient sur une bonne dynamique sur la fin de saison, donc
ça jouait pas loin avec les Gravelines.
Gravelines. S'ils auraient gagné le dernier match à Nancy, Quentin se maintenait.
Ils sont même contents. C'est 8-22.
En fait, c'est le goal average particulier entre les deux équipes qui met Gravelines devant.
Le portail, ils n'ont pas gagné un
match. Mais comme Nancy jouait justement un match pour rester en play-in, c'était compliqué. Et côté féminin, si je ne me trompe pas, il y a eu les finales...
Basketland
a gagné contre Bourges.
Sur le match d'appui, sur un 3 points de Marie, je vais écorcher son nom, il y avait égalité. En fait, elle met un 3 points à 30 secondes de la fin et Bourges ne remarque pas derrière. Et c'était la folie dans la salle.
C'est le doublé du coup.
Oui, ils ont fait le doublé.
Ouais. Double, non, ils font le double-double, parce que deux fois la coupe, deux fois le championnat.
Oh, c'est pas mal.
Ouais, c'est propre. C'est propre.
Okay.
Voilà. Eh ben merci beaucoup. C'était complet, c'était bien et tout va bien. Donc on va passer notre premier dossier. On va revenir sur les demi-finales de conférence.
C'est la guerre, mon colonel.
Alors pour commencer, honneur aux champions, honneur à OKC qui a réalisé un découpage en règle. Les Lakers se sont pris un bon coup de balai, un petit 4-0. Bon, c'était pas une grande surprise tellement ils étaient au-dessus. Mais bon, moi je veux dire, LeBron est vaillant, LeBron est toujours très fort, mais il peut pas tout faire et il peut surtout plus jouer 38 minutes par match à 41 ans. C'est pas possible. Arrivé à un moment, il est épuisé et il n'est plus lucide.
Déjà, quand tu vois le premier tour qu'il a fait, déjà il a tenu l'équipe
sur ses épaules. Ouais,
donc contre OKC, c'était couru d'avance.
Et le deuxième meilleur joueur des Lakers sur la série, c'est Hashimura.
Hashimura,
il était très
bon, notamment à 3 points.
C'est un très fort poste 4. Hein. Lui, il est vraiment.
On a encore eu droit à la disparition magique du André Ayton.
Ouh, comme tous les saisons.
Je suis là, je suis plus là.
Alors que Jackson Hayes, finalement, il fait pas. Après,
Dominaton.
Trop fort. Ouais. Mais il est pas si mauvais que ça, Jackson Hayes. Et c'est vrai que D'Antre Ayton, il est. Ouais. Enfin, pour un numéro 1 de draft.
Ayton Senna dans le mur.
Ouais, ce qui est frustrant, c'est qu'on n'ait pas vu Doncic et LeBron. Comme LeBron en fin de saison, il jouait quoi.
Doncic, on va revenir dessus. À chaque fois, c'est un coin. Un peu la même histoire. C'est le gars qui fait une grosse saison régulière. Puis forcément, à un moment, le physique tient pas parce qu'il joue quand même énormément, parce que tout dépend de lui.
Il joue aussi avec sa sélection tous les.
Ah ouais,
à chaque fois.
À un moment, il va falloir réfléchir comment tu utilises Doncic, lui trouver un bon diététicien quand même aussi, parce que.
Non mais. Là, ça a bien mieux cette année.
Cette année, non
mais. Pire qu'Adal.
C'était mieux, mais moi, je suis encore très sceptique quand même sur son physique, sur sa capacité à jouer des saisons à 40 minutes, à, tu vois, enfin à 36 minutes par match.
Ce sera un bon exemple pour notre buzzer beat.
Exactement. Voilà. Je spoil pas, là.
Et honneur, moi je dis honneur pour OKC au coaching staff pour sa gestion des minutes. Le 5 majeur d'OKC joue moins de 30 minutes par match.
Très très fort.
Et ça, ça va peut-être peser sur la série en cours. On y reviendra.
Buzzer beat.
Quel
ouais, c'est clair.
C'est incroyable.
Ah, parce que le MVP, Shea, il est à nouveau MVP, mais en jouant moins que l'année dernière.
Ah oui, c'est ça. Ouais. 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 Et c'est pour ça, la gestion, elle est.
Mais en étant plus adroit.
Il met un point de moins, je crois, en moyenne, juste en jouant 3 minutes de moins sur la saison.
Puis les Spurs ont disposé finalement et assez tranquillement lors du match 6 de Minnesota. Trop amoindri par les blessures. Ouais. De Vincenzo leur a manqué incroyablement. Anthony Edwards sur une jambe et un Azrid toujours en délicatesse avec ses chevilles. Wemby a été très soft, sauf au match 4 où il a laissé un peu trop. Oh, allez,
prenez les bras.
Il a mis quoi ? Il a fait une shot caresse. Ça c'est bien.
Il est trop grand.
Ah, il s'est fait expulser suite à un coup de coude volontaire. Il a pris une flagrante 2. C'était logique, hein, d'ailleurs.
Ah oui,
personne n'a été trop surpris. Mais cette série, le premier match avait été intense, incroyable. Et je trouve que celle-là, par contre, les pneus se sont crevés au fur et à mesure.
Mais problème de Minnesota, depuis 3 saisons, il s'est confirmé. Grosse bataille pour sortir des gros favoris parce qu'ils sont pas bien classés. Et puis finalement, dans la durée, ça peut pas tenir parce que leur basket est très physique. On l'a vu hein, de toute façon. Et qu'à un moment, quand tu as des joueurs qui se blessent, etc., ou qui jouent sur une jambe, ils ont cumulé 2-3 trucs. Hein.
Randle.
Gobert. Complètement cramé. Là, il s'est fait marcher.
Ouais, mais il a tenu.
Il a tout donné sur Jokic. Oui, ouais. Il était plus là. Et puis il avait Wembanyama dessus.
Bah ouais,
et puis Randle.
Ça va pas l'enchaînement.
Le dernier match de Randle.
Ah, on peut faire un 5 majeur des fantômes. On a notre poste 4 et notre poste 5 là sur les 10.
Ouais, clairement.
Ah là là, ouais. Non, Randle.
Il est déjà dans les rumeurs de trade.
Ouais, Randle. Bah oui. Bah,
comme chaque année.
Ouais, mais après, c'est un très gros salaire, hein, Randle. Mm. Pour le...
C'est un très bon joueur aussi. Enfin, je veux dire, à chaque fois, on lui tombe dessus. Il fait quand même des bonnes choses aussi. Hein. Moi, j'aime bien Randle.
Il commence à avoir de l'âge hein, aussi. Hein.
Oui, aussi. Hein. Ouais.
C'est toujours pareil. Mais en tout cas, les Spurs ils n'ont jamais paniqué dans cette série alors qu'ils étaient menés 1-0.
Enfin, ouais, quelle expérience quoi.
Ouais, c'est ça, à l'expérience alors qu'ils ont tous 20 ans. Facile les gars.
On en reparlera.
Ça c'est fou quand même.
C'est fou, ouais.
Les mecs ils jouent
22 ans de moyenne
d'âge. Harper et Cassol, ils jouent comme des mecs qui ont 35 ans. Enfin moi je suis bluffé.
Ils sont arrivés, ils étaient NBA ready de la fac, voilà quoi, ils sont arrivés, ils ont pas eu peur. Ils ont tous pris leur place et pareil, tout ça c'est du coaching hein. C'est du coaching.
Aussi, ouais.
Et c'est la méthode Popovic.
Ils ont bien tricoté leur effectif aussi, clairement. Ils ont réussi à pas se dépouiller pour faire venir Fox, de pas perdre leur jeune talent. Vassell, parce qu'on pensait qu'il partirait, mais Vassell, Cassel, Fox et...
Et Wemby.
C'est la méthode de coach Po, quoi. Tu vois,
plus qu'à 4.
Après, comme ils disent, ils ont bien tanké pendant quelques années pour pouvoir construire cette équipe.
C'est plus que... C'est vrai que c'est une franchise, quoi.
T'as des équipes qui réussissent à bien tanker.
Il y a une organisation, quoi. C'est au-delà de l'équipe de basket, t'as une organisation.
Côté Est maintenant, les Knicks ont pulvérisé de bien faibles Sixers.
Comment
Boston n'a pas
comment
est arrivé là.
À chaque match que je regardais là, je me suis dit mais qu'est-ce que mais Boston c'est pas possible.
Comment tu mènes 3-1 dans la série, fais rattraper par
ça.
Bah c'est
par
pas ça, compliqué. Par ça. Tu rejoues comme l'année dernière. Avec les mêmes défauts que les dernières, compris.
Et puis après, t'as pas de mec à l'intérieur pour contrer Embiid sur un match.
Keita, il a pas joué beaucoup. Hein,
Embiid, il jouait à ce niveau-là. Enfin, il a complètement descendu. Oh,
d'accord,
il a joué un super niveau.
Ok, les Sixers, ils étaient en sur-régime. De toute façon, ils étaient cramés derrière, ils ont plus rien fait.
Ça va le thème de notre de notre de ouais. notre émission quoi. Non, il a pas joué de l'année.
Non mais c'est ça.
Et puis bah,
mais voilà. Le coaching de je suis désolé hein, le coaching de Madouai est pas bon, clairement pas bon.
Non, il reviendra. Et par contre Mike Brown a mis Karl Anthony Towns en tête de raquette, il a fait sortir Embiid, il y avait plus personne dans la raquette et les autres joueurs ont pris la raquette d'assaut. Nick Nurse, coach de Philadelphie, n'a pas trouvé de solution. Les Knicks annoncent la couleur à l'est, ils sont repartis se reposer.
Il y a quand même
ils n'ont pas été trop fatigués par la série là.
Non, ça va.
Franchement,
entre Thibodeau et Mike Brown, on voit quand même une différence au niveau du coaching. Enfin, il a su s'adapter. Il a.
Il joue avec plus de joueurs aussi. Ouais.
Regarde cette nuit, Chamet, il joue un vrai rôle.
Voilà. Bon, puis la dernière. Bon. Allez, on y va. Allez,
Detroit basketball.
Enfin, Détroit n'a pas réussi un deuxième exploit en gagnant le match 6 et 7 contre Cleveland. Ils ont gagné le match 6 à Cleveland, mais ont pris une terrible leçon de basket au match 7. Il n'y avait plus rien dans les chaussettes.
Ouais, mais on sent qu'ils étaient au bout, là. Le dernier match, dès le début du match, ils ne sont plus dans le...
Ceci dit... Regarde, l'année dernière, éliminé au premier tour. Cette année, il passe au deuxième tour, éliminé en Game 7. Ils prennent en expérience, les mecs.
Il faut se rappeler.
Il va y avoir des changements aussi.
Oui, et puis il faut un créateur.
Il y a 3 ans, c'était la risée de la NBA. 14 victoires. Enfin, voilà, tu peux pas...
Les Spurs, c'est pas un modèle de développement pour commun, je veux dire, ce qui se passe là.
Et je trouve que Détroit, tu vois, ils ont joué les playoffs comme ils ont joué la saison régulière. Tu vois, ils n'ont pas augmenté leur niveau. Ils ont joué toute la saison de la même manière. Il n'y a pas eu...
Ils n'avaient pas de marge pour...
Ouais, c'est ça. Et puis, il manque un deuxième marqueur derrière Kate, quoi. Ouais, il y a Tobias Harris qui a bien...
Il a fait des très beaux playoffs.
Il a fait un super premier tour et un début de série contre Cleveland.
Les deux derniers matchs.
Il a ses limites,
quoi. Ouais, c'est ça.
Et on peut rien lui reprocher, parce qu'en plus, c'est un mec qui défend.
Il y a Paul Reed qui est bien là, par contre.
Ah non, c'est quand même Duren qui aura été une grosse déception sur ça.
D'ailleurs, et qui est en fin de contrat.
Ouais. Et le fameux contrat. Mais il va quand même
le garder.
Ah oui, ils vont le garder.
De toute façon, moi je pense qu'il faut garder le trio Cunningham, Duren et Thompson. Tu vois, c'est l'avenir de la franchise. Et puis tu construis autour de ce trio et on fera bien mieux l'année prochaine.
Carrément.
Hein? Allez. Mais Cleveland, pour revenir, parce qu'il faut quand même leur donner un peu de crédit, je trouve que Cleveland a vraiment très bien joué. Et moi, je pense que c'est plus Cleveland qui gérait les matchs que Détroit, en fait. Parce que Cleveland...
Il va falloir qu'ils apprennent à les gérer, les matchs, hein, Cleveland.
Et on va en parler.
Quelques pertes de balles. Quelques pertes de balles.
Ouais, mais tu vois, le match commençait, tu te dis, si Cleveland met dedans, ils gagnent le match. S'ils mettent pas dedans, ils perdent. Alors, c'est un peu la base du basket. Mais ils avaient beaucoup de shoot ouverts, parce que même les matchs qu'ils perdent, ils ont énormément de shoot ouverts. C'est juste de l'adresse.
Parce que Merrill, quand il met dedans,
il
fait mal. Hein.
Et Pipin.
Oh oui!
Ça c'est beau ça!
Bien joué!
Et ça sort comme ça!
Ah, là,
moi, j'adore, franchement!
Il manque que Sam Gadji!
Ok! Bon, on chine avec Bruno du coup!
Eh oui! Attention, messieurs, dames!
Pas content!
It's time!
Il découpe comme personne et il est toujours aussi grincheux. Après, ses coups de gueule sont légendaires. C'est l'heure de...
Bruno Way.
Alors, mesdames et messieurs, bienvenue dans le plus grand spectacle du monde, les playoffs NBA. Ici, on joue pas seulement au basket, on joue aussi à devine ce que l'arbitre va siffler. Un jeu où les règles changent plus vite que les coiffures de Dennis Rodman. Prenez le Game 3 entre les Spurs et les Timberwolves. Chris Finch demande un temps mort à 3 secondes de la fin. L'arbitre, Tony Brothers, décide que non, aujourd'hui, on fait pas de pause. Résultat, les Wolves perdent la balle. Finch perd son calme, Brothers perd son sang-froid, au point qu'Anthony Edwards et ses coéquipiers doivent jouer les casques bleus pour éviter une guerre mondiale sur le parquet. Et pendant ce temps-là, Jalen Duren regarde la scène en se disant « Moi, au moins, je fais rien pendant les playoffs, comme ça, personne me siffle. » Alors pourquoi l'arbitrage en NBA en 2026 ressemble plus à un épisode de Black Mirror ? Parce que cette année, la Ligue a 3 priorités. Gérer le tanking, lancer la NBA Europe et ajouter 2 nouvelles franchises. Et l'arbitrage ? Ah oui, non mais ça c'est pour plus tard. Peut-être. Enfin, si on a le temps entre 2 réunions pour vendre des maillots à 200 euros. Je vais vous présenter quelques exemples de si absurdes que vous allez peut-être vous demander si la NBA n'a pas remplacé ses arbitres par des juges de télé-réalité ou par Draymond Green avec un sifflet.
Ouh, y a pas faute.
Commençons par ce qui semble le plus flagrant. Dans le match 5 des playoffs entre les Cavs et les Pistons, l'arbitre, qui était encore Tony Brothers, hasard ou coïncidence, et une action controversée en fin de match avait tout d'un classique. sauf peut-être pour les nerfs de Mehdi qui a probablement perdu quelques années d'espérance de vie au passage.
Même pas sur
ça. C'est ça qui est fou, il est philosophe sur ça.
À environ 2 secondes de la fin du temps réglementaire, alors que le score était bloqué à 103 partout, Oscar Thompson sort une défense de patron en contrant un flotteur de Donovan Mitchell. Il récupère le ballon, il est prêt à jouer les héros. Mais là, une entrée en scène de Jarrett Allen qui, avec un contact, le fait vaciller comme un pingouin sur une plaque de verglas. Résultat, perte de balle et une salle entière qui retient son souffle en mode « il va siffler ». Eh bien non, il siffle rien du tout.
Pas de lancer.
Les arbitres imperturbables, comme des statues grecques, n'ont rien sifflé. Pourtant, les Pistons, c'était dans le bonus, autrement dit qu'avec un coup de sifflet, Thompson partait au lancer franc, avec la possibilité de jouer le sauveur pour Détroit. Mais au lieu de ça, silence radio. Même le sifflet semblait être parti en pause café. Autant dire que côté Pistons, ça n'a pas vraiment été accueilli avec philosophie. L'entraîneur JB Bickerstaff et ses joueurs ont protesté avec énergie. Mais le lendemain, dans son célèbre Last Two Minute Report, calmement écrit par la NBA, ils ont écrit que le contact était marginal. Traduction officieuse, oui, se sont touchés, mais bon, au basket, c'est pas un slow de balle de promo non plus. La Ligue a estimé que les deux joueurs se dirigeaient légalement vers le ballon qui n'appartenait à personne. En gros, un peu comme deux personnes courant vers la dernière part de pizza, chacun a le droit d'essayer, même si ça finit en léger chaos.
Il y en avait un qui est en avance hein, quand même pour la part de pizza.
Ouais, moi il me semble aussi. Résultat, un no-call qui est validé au grand désespoir des Pistons qui ont dû ravaler leur frustration comme un supporter après un buteur beater adverse. Et bah, comme toute bonne histoire dramatique, cette action a eu des conséquences puisqu'on est parti en prolongation et les Cavs ont finalement arraché la victoire 117-113. Ensuite, on a eu Victor Wembanyama qui a été expulsé pour un coup de coude parce qu'il est trop grand. En fait, Wemby, notre DPOI en titre, il s'est fait provoquer toute la série contre Minnesota. Résultat, il craque, il lâche un gros coup de coude et il part. Bon, expulsion du match. Notre Français n'a pas été suspendu, il n'a même pas pris d'amende. Parce qu'il n'a pas de casier judiciaire comme un certain Damon Green qui peut étrangler Rudy Gobert ou envoyer une patate à Jordan Poole parce que celui-là, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Cool. Il y a aussi l'épisode Jaylen Brown, le roi des live Twitch et des amendes. Après l'élimination des Celtics, il critique l'arbitrage en live. Résultat, $50,000 d'amende. En NBA, tu as le droit de te plaindre, mais pas en public. Mais est-ce que c'était vraiment le seul problème des Celtics sur ces playoffs, l'arbitrage?
Non, c'est comme tout. Hein, ouais.
Et avant l'épisode de la glissade d'Oscar Thompson, il y a eu le Game 4 de la série des Pistons contre les Cavaliers, joué à Cleveland. Il y a une différence de 22 lancés entre les deux équipes. Et pas en faveur de Pistons, hein, un mot, Mehdi.
Ouais, mais ça, quand t'agresses pas le cercle, t'as pas de coup de sifflet. Hein.
À ce qui a provoqué quand même les critiques du coach de Détroit qui a dit « Nous, on a dit de jouer physique, mais dès qu'on touche un Cavs, il y a faute. » Bon, résultat, défaite des Pistons, et ils ont refusé de serrer la main des arbitres. Mais bon, comme je l'ai dit, la NBA a d'autres priorités. Gérer le tanking, personne ne fait semblant de perdre en play-off. Lancer la NBA Europe, les Européens, ils râlent aussi contre les arbitres. Ah,
c'est loin d'être lancé quand même.
Ouais, ajouter deux nouvelles franchises, plus d'équipes, plus de mauvaises décisions. Mais bon, est-ce que la disparité de traitement en matière d'arbitrage viendra et se réduira un jour? On ne sait pas. Et mais n'oubliez pas en tout cas qu'en NBA, le vrai MVP, c'est l'arbitre. Parce que sans lui, personne ne saurait jamais qui va gagner. Et la Ligue n'aurait pas plus d'excuses pour régler ses problèmes. Et à noter, la qualité de l'arbitrage lors du premier match de la finale de Conférence Ouest entre OKC et les Spurs, oui, qui a été vraiment perçue comme très bonne, voire exceptionnelle. Plusieurs observateurs et fans ont souligné que même l'arbitrage était kiffant lors de ce Game 1. Ce qui est rare et remarquable dans un match aussi intense et disputé avec 2 prolongations. Un match remporté par les Spurs 122-115 et salué pour son niveau de jeu, son équité dans l'arbitrage et sans aucune polémique majeure. Merci.
Bravo.
Bravo. Bon, bah, les hommes en noir.
Mais c'est quand même important, monsieur. Les hommes en noir.
Ouais, ouais. Bon, après, Détroit perd pas juste parce que, écoute, il y a quand même plus que ça. On va être assez honnête. Bon, bah, on y va, mon petit Pascal.
Pause musicale avec un petit Lenny Kravitz là.
Are you gonna go my way?
Are you gonna go my way? Allez. We'll be right back.
écoutez toujours Money Time, votre émission basket sur Graphite 94.9 sur la bande FM. Et on passe tout de suite à notre deuxième dossier. Et on passe, après les demi-finales de conférence, attention, surprise, on passe aux finales de conférence.
Eh, logique. Logique.
Oh là 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 là, il y a des ficelles dans ce métier, c'est incroyable. Ouais. Et on commence donc par la conférence Ouest. Le choc des titans tant attendu après ce match 1 a bien eu lieu. Wemby est un crack, Wemby est un génie, ouais. Wemby est une force incroyable, mais surtout, Wemby est très bien entouré. Ça a été un match incroyable.
Bah, la musique, elle va bien avec. Hein. Ouais, c'est dantesque, c'était absolument incroyable. Niveau de jeu, double prolongation.
D'abord le MVP, hein, il lui donne le trophée.
Le trophée.
Dans une c'est énorme comment il est Wemby.
L'ambiance de dingue.
Énorme comment il est Wemby sur le banc. Il ne jette pas un œil sur le sur la remise de trophée. Hein.
C'est là que tu vois qu'il a changé aussi la manière. C'est que son tempérament de compétiteur, il est en train de devenir vraiment très exacerbé.
Ah ouais, que...
Un peu à la façon d'un Jordan, tu sais, le gars qui veut pas partager en fait. Tu sens. Et c'est très bon, hein, parce
il
que
l'a dit à la fin du match. Ouais. Il veut en gagner beaucoup
des titres, oui.
Ouais, des titres, des trophées. Non, le match, bah, pour résumer, vraiment un match serré sur tout le match. Tout le match a été serré.
Coup pour coup. Hein.
Ouais. Ouais. OKC a eu un coup de moins bien dans le deuxième quart-temps. Mais je pense aussi que c'est dû au fait qu'ils n'aient pas joué depuis très longtemps.
Ouais, ça fait longtemps.
Et du coup, ils ont eu un mal physique à entamer le deuxième quart-temps.
Tu passes des Lakers aux Spurs, ouais. Je pense que tu as un
le choc.
De... Ouais. Ouais. Tu choques, tu
oh,
passes
bah,
de Hayton.
Ils se sont mouillés la nuque. Hein.
Tu parles d'Hayton à Wemby.
d'ailleurs, c'est marrant, mais Hartenstein et Holmgren se sont fait complètement défoncer. Enfin, Hartenstein n'a quasiment pas joué parce que quand il était sur le terrain au début, ils ont tout de suite pris un éclat.
Et, il jouait pendant les minutes de Cornette, quoi.
Ah oui, c'est ça.
Il a joué 10 minutes.
Holmgren, il n'a pas été bon. C'est lequel qui se fait dunker dessus par... Ils disent qu'à partir de ce moment-là, il était terminé.
Il lui met quand même un beau contre à Wemby.
Oui, oui. À la fin. Là,
ouais, mais enfin, tu regardes ses stats, je crois que c'est 2 sur 7. Ouais, 8 rebonds, 2 contre. Okay. Points, ouais.
Mais de toute façon, ils ne s'aiment pas, les deux-là.
Oui, oui, non, mais de toute façon. Mais Wemby a régné sur le match. Et pas que. Parce que sur la fin, c'est quand même Harper qui les met, les paniers.
Sûr, ouais.
Le mec, c'est un rookie. Quoi. Ouais. En finale de conf, premier match, qu'est-ce qu'il fait?
À l'extérieur.
Il est pas, normalement, il n'est pas dans le 5. C'est, normalement, c'est Fox qui est dans le 5. Ouais. Fox est blessé.
Faut pas oublier qu'il jouait sans Fox. Ouais.
Il joue ce soir,
Fox.
Oui.
Mais c'est cette équipe, c'est pour ça qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure en antenne, mais avoir un groupe aussi jeune... Mais qui joue avec une maturité de mais vraiment
c'est une force tranquille.
Ils sont conscients.
Ils s'énervent pas. Il y a pas de sur le terrain. Ils prennent pas la tête.
Ils ont pas encore la pression quoi. La pression elle est sur.
Puis là je pense que sur ce match-là ils n'ont pas la pression parce que. Je veux dire maintenant ils ont pris l'avantage de la terrain. Donc
c'est
énorme. Celui-là.
Il fallait leur sauter à la gorge. Il fallait profiter.
Oui, il fallait prendre le game one. C'est.
Du fait qu'ils étaient.
Ils n'avaient pas
depuis 10 jours quoi. C'est ça, 10 jours. 10 jours sans jouer au basket. Toi, tu sors quand même de joutes assez physiques, donc ils étaient aguerris, ils étaient prêts. Mmh. Et ce qui est super aussi, je trouve que c'est, je sais pas si vous avez remarqué, mais je les trouve très solidaires entre eux en fait.
L'équipe,
ils s'encouragent. Ils sont.
Toutes les images qui sont sorties là, quand on voit Wemby face au banc là, et puis t'as tous les gars qui le regardent. C'est trop beau.
En tout cas,
t'as eu les frissons.
Ils le disent qu'ils suivent, Wemby en fait. C'est lui qui est le moteur de tout ça. Hein.
Avec une personnalité quand même très particulière, ouais. Wembanyama quand même.
Mais il est là pour gagner. Ouais. D'abord, il s'est jamais caché qu'il était là pour gagner.
Moi, ce qui me fait plaisir aux Spurs, c'est qu'il y en a pas un qui a peur de jouer en fait.
Non.
Tu vois, Ciampagny, on pourrait se dire, un mec file la balle et tout. Lui, il a des shoots, il les prend quoi. Enfin, la balle arrive jusque lui, il les prend. Ce qui a été impressionnant sur le premier match, c'est qu'il y a énormément de joueurs qui sont à plus de 45 minutes du match. Le match 2, là, ils vont peut-être avoir du mal à démarrer quand même.
C'est clair. Hein. Ouais. Ils ont envoyé les jambes là.
Tu joues tous les deux jours. Hein, celui-là. Je pense que justement, le match 2, ils peuvent le prendre.
Aussi, ouais. Je pense que de toute façon, ils vont tout.
Il ne faut pas commencer à dire celui-là. On lâche celui-là. Quand en play-off arrive à ce niveau-là.
S'ils repartent d'Okessi à 2-0.
Ouais. Moi, tu vois, tu me demandes de mettre une pièce ce soir, je mets plus au caisson.
Ouais, quand même.
La fierté du champion.
Et le réveil risque d'être un peu.
On enchaîne sur New York.
Ça y est, je suis en retard. Après avoir écouté la première émission de l'année avec nos pronostics, on avait tous mis Cleveland et New York numéro 1 et numéro 2 en fonction. Chacun a mis 1 et 2. Alors, est-ce vraiment surprenant de les retrouver en finale de conférence? Je ne sais pas. Cleveland a fait 3 quarts temps au premier match avec un rythme de folie. pour avoir 22 points d'avance dans le dernier carton. Et là,
7 minutes de la fin.
Blowout. Enfin, il sait plus,
plus rien.
Plus rien. Le mec a éteint les lumières.
Bah, je connais, on sait qui c'est.
Qui c'est, ouais.
C'est un petit gars qui fait un 88, ouais. C'est ça
Et Cleveland s'est arrêté de jouer. Ils ont commencé à vouloir gérer le chrono alors que c'était une connerie phénoménale. Harden a été visé d'un coup en attaque par New York.
Mais pourquoi il le sort pas, quoi?
Et 4 temps morts. Il lui
reste 4 temps morts à la fin. Il le laisse jouer, il s'en prend, je sais pas.
Soute un peu de lui quand même là, parce que j'écoutais ce midi qui disait qu'il est gardé peut-être pour chez lui avec sa femme.
Il y a une collection. Et d'un autre côté, le panier est devenu une bassine pour Brunson, qui pouvait shooter les yeux bandés. Hein. Franchement, il
bah lui, avec lui, la planche. Clairement.
Avec la planche.
Les petits shoots avec la planche.
Brunson, il se nourrit de ça. De sa capacité à scorer. Et en plus, je pense qu'il y a tellement une synergie entre lui et le public. Que derrière, en plus, on sent vraiment la pression, le Madison Square.
Parce que tu le vois sur les images,
ils
étaient
éteints.
C'était
éteint à la fin du début du quatrième.
Il n'y a plus un bruit, hein, c'est une cathédrale.
Et puis après, ça remonte. Il marque juste quelques séries de paniers.
Et quand il met son troisième 3 points là, dans le dernier carton, tu as vu, les images se tournent donc, sur le premier rang des spectateurs. Et tu as Ewing. T'as Bernard Johnson. King, t'as la 13 Brewell et tout. Ouais. Mais c'est des gosses, les gars. Je te jure, ils se tapent dans les mains, ils se mettent dans les bras et tout.
Marcus Camby.
Ils sont tous là. Moi, j'adore quand il y a des légendes comme ça.
C'est super. Après, le scénar, alors en termes de niveau de jeu, clairement, on n'a pas vu un grand match de basket. Par contre, on a vu vraiment un choke de malade parce que ce qui s'est passé, là, c'est historique. L'année dernière, les Knicks nous ont habitués à faire ça quand même contre Boston, désolé. Ils en avaient. Ouais, mais plusieurs fois, ils l'ont fait à des gros écarts et puis ils reviennent sur la fin. Mais là, tu as l'impression que une fois qu'ils enchaînent deux paniers, le public se dit « Ah ouais, mais c'est bon. »
Tout est possible. Tout est possible.
Et des mecs comme Hart, Anunoby, etc., mais, ils mettent tellement d'énergie derrière. Match
Landry Bridges aussi. Bridges, il prend les tirs à la fin. Alors que c'est pas le meilleur shooter à 3 points.
Ah non, mais... Enfin, pourtant Towns a pas fait un grand match,
hein. Un petit 1 contre 1 sur un playground, tu mets Harden et puis Jalen Brunson.
Moi, c'est ce que je retiens un peu
sur la fessée.
Les deux premiers matchs là, c'est que les stars sont présentes quand même, mais il y a des seconds couteaux qui se montrent et les mecs, ils ont peur de rien.
Chamette, là, c'est impressionnant quand même. Quand il rentre, il fout il défend comme un mort de faim. Alvarado, quand il vient, c'est un petit poison aussi. Donc, ils ont un bel effectif.
C'est l'année de New York, là.
Non, mais tu vois, autant les Spurs, ils sont allés chercher le match à OKC, que là, je pense plus que c'est Cleveland qui l'a perdu à New York.
Après,
quand t'as 22 points d'avance,
Tu vois, ça va être important. Comment ils vont se remettre?
Harden, il a pas de cerveau, de toute façon. Tu sais, lui ça va bien se passer.
Il va pas cogiter.
Lui, pas de problème.
Il s'est bouffé 8 fois, là, c'est ça.
Il cogite pas.
Mais par contre, tu vois, ils ont intérêt à en prendre un. Ils ont intérêt à prendre le prochain parce que à 2-0,
mais le coaching a été.
Pourquoi Atkinson, il laisse?
C'est ça.
Tout le monde
le dit. Tu fais changement, tu mets un gros défenseur justement pour.
Tu me fais rentrer Tyson. Tyson, tu peux le faire rentrer.
Incompréhensible.
C'est vrai que là, il y a eu un gros problème de coaching.
On a hâte de voir la suite là. Ouais. En tout cas, les deux séries.
Cette nuit, il y a le deuxième match des Spurs contre OKC. Et la nuit suivante, il y a le deuxième match de New York-Cleveland. Et c'est comme ça, c'est un jour sur deux jusqu'à la fin de...
Moi, je suis content, les playoffs commencent enfin.
Non, mais franchement, le premier match OKC-Spurs...
Ça va être dans les meilleurs matchs historiques. Ouais.
D'accord.
Ouais, je pense que c'est l'un des... Pour l'instant, c'est le plus beau match de la saison.
Le 3 points qu'il prend, là.
À 8 mètres, là.
Ah oui, attends.
Le mec à 8 mètres. Ah, ça y est. Oh là là. C'est l'heure du rétablissement d'une légende.
Gobzilla.
Yeah. Allez, on y va. Rudy Gobert, l'histoire d'un gamin de Saint-Quentin devenu l'un des remparts les plus infranchissables de l'histoire du basket mondial. Tout commence dans l'Aisne, en Picardie. Né à Saint-Quentin, Rudy Gobert n'est pas immédiatement destiné aux projecteurs de la NBA. S'il hérite des gènes de basketteur de ses parents, c'est d'abord par sa taille impressionnante et une éthique de travail hors du commun qu'il sert à se faire remarquer. Après avoir fait ses gammes dans sa région natale, il intègre le centre de formation de Cholet Basket. C'est là que le diamant brut commence à être poli. Longiligne, doté d'une envergure interminable, il apprend à imposer sa loi dans la raquette. En 2013, il saute le pas et se présente à la draft NBA. Personne ne se doute encore que le 27e choix de cette année-là va redéfinir la défense moderne. Arrivé sur la pointe des pieds à Utah, Rudy va rapidement transformer le Jazz en une forteresse imprenable. C'est le début de l'ère The Stifel Tower, la tour de contrôle. Ce qui frappe chez Gobert, c'est son impact invisible sur les statistiques classiques, mais terrifiant pour les attaquants adverses. La simple dissuasion. Les joueurs renoncent à driver dès qu'ils le voient lever les bras. Il enchaîne les distinctions et décroche 3 titres de meilleur défenseur de l'année avec le Jazz. Il devient un All-Star indiscutable et s'impose comme le pivot protecteur de cercle de référence en NBA. Transféré chez les Minnesota Timberwolves dans un échange historique en 2022, Rudy Gobert a prouvé à ses détracteurs qu'il était le chaînon manquant d'une équipe visant les sommets. En propulsant les Wolves parmi les meilleures défenses de la Ligue et en décrochant un 4e titre de défenseur de l'année, il a égalé les légendes Dikembe Mutombo et Ben Wallace au Panthéon du basket. Une réussite bâtie sur le travail, le sacrifice et une force mentale à toute épreuve face aux critiques. Au-delà de la NBA, Rudy est le pilier de l'équipe de France. Des parquets picards aux finales olympiques, notamment la médaille d'argent vibrante à Paris, il a porté haut les couleurs tricolores, s'affirmant comme un leader vocal, un grand frère pour la nouvelle génération, comme pour Victor Wembanyama, et un gagneur insatiable. Chris Finch, son coach, dit de lui que cette équipe ne pourrait rien sans lui, et cela se lit sur les statistiques. Quand Rudy est sur le parquet, Minnesota encaisse 1,2 points par minute, contre 1,9 points sans lui. Pourtant, si Rudy Gobert a empilé les trophées individuels, il a également collectionné les critiques tout au long de sa carrière. En NBA, il est sans doute l'une des figures les plus polarisantes. Pour ses détracteurs, qu'il s'agisse de consultants, d'anciens joueurs ou de fans, le pivot français incarne les dérives d'une ligue qui valorise parfois les statistiques au détriment du talent pur et du spectacle. C'est le cheval de bataille de légende de la ligue, au premier rang desquels Shaquille O'Neal. Gobert a signé au cours de sa carrière des contrats mirobolants dépassant les 200 millions de dollars. Chaque résume souvent la frustration d'une partie du public. À ce tarif-là, on attend d'un joueur qui domine physiquement des deux côtés du terrain, pas un profil dont l'impact est principalement invisible ou défensif. Sur le plan technique, les critiques pointent du doigt un arsenal offensif extrêmement limité, surtout à une époque où les pivots modernes comme Nikola Jokic ou Joel Embiid savent tout faire. Gobert ne shoote pas à mi-distance ou encore moins à 3 points, mais Gobert pose des écrans. Ses détracteurs se régalent sur les réseaux sociaux de ses réceptions de balles parfois manquées, de ses pertes de balles sous le cercle ou de ses mouvements jugés gauches et peu fluides. Pour eux, cela manque cruellement d'habileté technique. Au-delà des débats, des statistiques avancées et des critiques, la trajectoire de Rudy Gobert force le respect et impose une admiration profonde. Qu'on aime ou non son style de jeu, l'histoire du sport s'écrit avec des accomplissements tangibles, pas avec des opinions. Et ceux de Rudy sont tout simplement historiques. Le pivot picard est le symbole absolu de la persévérance et du travail de l'ombre. Parti de Saint-Quentin avec pour seule arme sa grande taille et une détermination farouche, il a conquis le sommet de la plus grande ligue du monde en choisissant la voie la plus ingrate, celle du sacrifice défensif. Dans une NBA moderne obsédée par le strass, le tir à 3 points et les actions virales sur les réseaux sociaux, Gobert a fait de la protection du cercle un art majeur. Il a prouvé que l'on pouvait dominer et transformer une franchise sans jamais réclamer la lumière des projecteurs offensifs. On mesure la grandeur d'un athlète à la manière dont il force ses adversaires à s'adapter. Pendant plus d'une décennie, Rudy Gobert a modifié la géométrie des parquets NBA. Il a forcé les attaquants les plus talentueux de la planète à renoncer à leur attention dès qu'ils croisaient son regard sous le cercle. En fin de compte, le gamin de Picardie a transformé le doute en or. Il laisse derrière lui un héritage immense et un message universel. Avec une discipline de fer, une éthique de travail irréprochable et une foi inébranlable en ses propres forces, on peut faire taire les critiques et s'offrir une place pour l'éternité. Rudy Gobert n'est pas seulement un champion, c'est un monument du sport français.
Oh bah ça, c'est un bel hommage. Ah bah, bel hommage.
Il mérite.
Ouais, alors très bien écrit, bravo.
Oh bah écoute.
T'as une belle plume, vraiment. Et moi, j'aurais envie de poser une question, tu vois, pour conclure le truc. Est-ce que ça viendrait aux gens de contester le talent d'un Ben Wallace ou d'un Dennis Rodman?
Non.
Pas. Aujourd'hui, Gobert, on lui reproche justement le fait d'avoir signé des gros contrats et d'avoir un apport offensif clairement limité. On voit maintenant, Gobert, en plus, est plutôt en fin de carrière. Là. Il commence à amorcer sa fin de carrière, clairement. Mais tout ce qui, tu as souligné, tout ce qui provoquait la dissuasion, les écrans qu'il pose, etc., tout le taf qui est fait, c'est un travail, tu l'as dit, ingrat, mais qui est indispensable.
Quand mais qui n'est pas reconnu.
Et qui n'est pas reconnu. Mais moi, j'en ai un peu marre aussi de voir effectivement des O'Neill, etc., des Barclay qui vont.
C'est du ah, machin. Ouais, O'Neill, c'est juste qu'il n'a pas eu le salaire, qu'il n'a jamais eu le salaire que Gobert touche, quoi. C'est ça qu'il a en travers de la gorge. Bon, c'est okay. Juste une question d'argent.
Bon, lui. Peut-être. Après, il a été aussi maladroit dans certains trucs. On sera. L'épisode du Covid, où il a joué les micros derrière, etc. Bon, ça n'a pas contribué à redoser, à dorer forcément son blason aux États-Unis. Mais il faut.
Puis des mecs comme Draymond Green qui passent son temps à le défoncer aussi.
Ouais.
Faut pas oublier que quand il arrive à Utah, en 2020, je sais plus, il y a une année, 2017, où ils finissent premier de la conférence Ouest. Quand il y a Mitchell et autres.
Comment ça s'appelle, Joe Ingles, etc. Royce O'Neill.
Et il a complètement changé le visage de la ligue. Hein. C'était la meilleure défense.
Mais il n'y a pas eu d'accomplissement avec cette équipe-là, malheureusement. Peut-être qu'ils étaient un peu jeunes aussi. Mitchell était encore un peu jeune. Mais on lui a reproché en disant tu étais premier de l'Ouest. Parce qu'il était premier de l'Ouest. Vous n'êtes pas allé plus loin.
Après, les équipes aussi. Ce qui est bien aussi sur les séries de play-offs en NBA, c'est que les équipes s'adaptent. Et c'est vrai qu'ils s'adaptent beaucoup sur lui. Je veux dire, ils changent, ils arrivent à mettre un petit dessus, ils n'arrivent plus trop à défendre. De toute façon, dès que tu l'éloignes du cercle, il devient faible. Quoi.
Là, contre les Spurs, vraiment, il était pas dedans. Quoi. Vraiment, non, il avait tout donné sur Jokic avant.
Et quand il faut défendre sur Wemby, qui peut tirer à 3 points aussi, qu'il faut sortir loin.
Non, mais même, tu l'as vu rater des paniers à 1 mètre du cercle, etc. Bah, des trucs qu'il ne ratait pas normalement.
Puis, tu passes de Jokic à Wemby, tu te dis oh, les gars.
Ça suffit, là. C'est bon, ça s'arrête jamais.
Ça arrête jamais ces conneries.
Ok.
Enfin voilà.
C'est l'heure du buzzer beater.
Ah, allez.
Tu m'as dit.
C'est bon, on est dans les temps ou pas?
On est nickel.
Ah bah t'as
tout rattrapé.
Oh, dis donc. Portland has a timeout. Lillard, a chance to send the Thunder home. Lillard, long range three. Alors, notre jingle, le buzzer beater du jour. La gestion des joueurs va devenir un enjeu pour arriver loin en play-off. Alors, moi, j'essaye de me projeter là, sur les saisons à venir. T'as vu, et déjà, ils vont revenir sur les trophées individuels. Les 65 matchs, ça va certainement sauter parce qu'ils ont vu que c'était un handicap et heureusement qu'ils ont réintégré des joueurs qu'on avait joué que 63 ou 64.
Ouais, puis ça a toujours été lissé par les votants en fait. Les votants ont toujours fait attention au fait que les joueurs participaient à un nombre minimum de matchs. Il y a que le Embiid qui a eu 63 matchs joués en étant MVP.
En fait, c'est ce qu'il y a besoin de faire ça. Mais le problème, c'est qu'ils sont obligés aussi de faire ça parce que les récompenses, elles impliquent. Bien des sûr. Primes qui sont très importantes. Je veux dire, entre ne pas être nommé dans une NBA First Team, Second Team ou Third Team et l'être, ton contrat, potentiellement, ça se compte en dizaines de millions de dollars. Alors, on peut dire qu'ils sont tous pétés de thunes et qu'ils n'en ont pas forcément besoin. Mais il faut aller quand même poser un cadre. Et c'est vrai que là...
Et moi, je pense que en saison régulière, je pense que les coachs vont faire le choix de reposer beaucoup plus les joueurs essentiels afin d'arriver plus frais en play-off. Ouais. Et cela marche cette année, on le voit. Alors, pas à l'ouest, non, justement, à l'est.
Mais
tu regardes New York, Anunoby, il a pratiquement pas joué, je crois, 53 matchs dans l'année.
Ouais.
Josh Hart, il a dû en jouer 57. Tu vois, et moi, je pense qu'il y a déjà une gestion qui est faite et je pense que ça va s'accentuer sur les années à venir. Les coachs vont utiliser beaucoup plus leur banc.
Toi, tu parles du nombre de matchs qui est géré, entre guillemets, la franchise, blessure, pas blessure, etc. Moi, je pensais plutôt à, tu vois, gestion du temps de jeu. C'est-à-dire que tu prends Wembanyama, dès qu'il s'est blessé, ils ont dit qu'il ne jouera pas plus de 30 minutes. Mmh. Grosso modo, ils se sont tenus à ça. Et finalement... ça a marché.
Ouais.
On sait que des joueurs comme Doncic, moi, si je suis...
il faut du rythme.
Doncic, oui, il faut du rythme, mais t'as pas besoin de 38 minutes pour
ça
avoir...
Ça s'est quand même vu avec Jokic aussi, là, entre avant et après sa blessure. Il a pas fait le All-Star Game, là. Il s'est blessé à ce moment-là. Et puis après, il a été tout absent au mois de mars, avril. Et après, il était déjà plus pareil, quoi. Ça s'est quand même vu, il était...
Peut-être qu'il était surutilisé aussi. Oui.
Il fallait qu'il fasse trop de choses.
Mais le souci dans les franchises, c'est que tu as besoin d'avoir un backup qui tienne la route.
C'est ça.
Je veux dire, Doncic, quand il sort des Lakers, ça fait un trou. Hein.
Ouais, et si on prend l'exemple toujours de Denver, Jamal Murray fait la meilleure saison régulière de sa carrière, il joue plein de matchs, il n'est jamais blessé.
Il arrive cramé
au playoff.
Mais sa récompense, c'est qu'il est allé au All-Star Game pour la première fois.
Première fois All-Star,
Non, mais après, par contre, il va falloir qu'ils aient des effectifs plus longs, mais de bons joueurs.
C'est pour ça qu'OKC, tu regardes, OKC peut se permettre de le faire. Pourtant, à OKC, un mec comme Caruso est souvent blessé, hein, quand tu regardes. Hein. Il est souvent indisponible. Mais ils ont des Kayson Wallace, ils ont des mecs sur le banc, des Isaiah Joe, etc. Ils ont tellement une longueur, un effectif long, qu'ils peuvent se permettre de gérer les temps de jeu.
Et c'est pour ça que c'est les meilleurs, toute façon. Ouais. Moi, je pense que New York, tu vois, ils auraient intérêt à faire attention à Brunson. Tu vois, à le faire jouer moins en saison régulière.
C'est pour ça qu'Alvarado, ils l'ont fait venir, mais juste à la deadline, au moment de la deadline. Mais effectivement, il faut ces joueurs-là, qui sont ultra physiques en plus. Hein. Tu vois, Brunson, tu regardes le match.
Il
faut les protéger, il faut leur mettre des backups, comme tu as dit, mais qui tiennent la route.
Et c'est là qu'on peut se dire quand même que dans l'année, tu vois, LeBron James qui a 41 ans, il a pas raté tant de matchs que ça, alors que il a vraiment tenu les
débuts de saison. Il
y a une saison où il s'était blessé un peu plus.
C'est la première fois, il commençait pas la saison, je crois. Enfin, depuis...
Moi, à 41 ans, j'étais plus souvent blessé que lui. Hein.
Non, mais tu vois, la gestion des joueurs, moi, je pense vraiment que ça va devenir un débat essentiel dans la NBA. Tu vois, une saison pour Orlando. Orlando, ça a été une catastrophe.
Ouais, clairement.
Ils ont fait jouer les joueurs, ils les ont fait jouer, ils se sont tous pétés les uns.
Wagner qui revient trop tôt, on avait parlé dans l'émission. Ça leur coûte très très cher. Hein.
Bah oui.
Avec Franz Wagner, je suis pas sûr qu'ils.
Et résultat, quand ils sont pas au deuxième tour. En arrivant au premier tour des playoffs, voire au play-in.
Le premier match, ils piquent.
Hein. Bah ouais.
Premier et le troisième, quand ils vont à Orlando, là. Bah d'ailleurs, c'était la soirée.
Eh oui.
De George.
George dédicace.
Donc voilà.
Ça bouffera.
Donc je pense que le temps de jeu des joueurs va devenir, tu vois, l'histoire du tanking et autres, ça va peut-être aussi rentrer là-dedans, de savoir, ils vont peut-être mettre une minute et des minutes obligatoires, ils vont peut-être en arriver là pour essayer de donner un peu de crédit.
C'est sûr.
Parce qu'après, si tu veux vraiment faire du tanking, tu sais, tes stars, tu peux les reposer. Hein. Tu les fais jouer 3 minutes sur un carton, tu les mets sur le banc, tu fais rentrer les autres.
La ligue, elle peut rien te dire. Hein,
c'est juste de la gestion de match.
Ouais, exactement.
Faut être plus malin que les autres, hein. Ça y est.
Ah, il est temps de se dire au revoir, les gars.
Ah, déjà.
Ouais.
Ah, mais
ouais.
C'est encore passé vite, hein, cette émission. Ouais. C'est bien quand on s'amuse.
Faire un petit dédicace.
C'est vrai. Bah déjà, la prochaine émission, c'est quand?
Alors la prochaine émission, c'est
juste avant les finales NBA.
Oh, la question piège.
J'ai pas le calendrier.
C'est pas le 3 juin.
Si, c'est le 3 juin, évidemment. Bah de toute façon, c'est le 1er et 3e mercredi.
Et donc les finales NBA commencent le 4. Ouais. Donc on aura les finalistes.
Les finalistes.
Le mec, il a
grand débat.
Dans la tête.
Ouais. Ouais. Ah, c'est propre, hein.
C'est,
propre.
C'est bien.
Il est fort.
T'es carré aujourd'hui.
Ouais.
Petite dédicace. Je fais une dédicace à ma femme qui est partie en voyage scolaire.
D'accord. Voilà. Non, des dédicaces à sa femme. Hey.
Ma chérie, je t'aime. Tu me manques. Il n'y a pas de linge à laver.
ça, 2026. Et c'est pas moi qui l'ai dit. Hein.
Mais bon.
Ouais, petite dédicace au Havre. Le STB Le Havre qui montre en élite 2. Ils arrivent à remonter, donc ça c'est classe. Et une dédicace aussi aux loisirs de Marny, qui ont perdu dignement contre les loisirs de la Croix.
Bravo les gars.
Lundi dernier.
Baptiste, une petite dédicace pour ton nez ou pas?
Non, ça va, j'ai laissé mon nez à Marny.
Comme Michael Jackson.
Sinon, à part ça, allez, une dédicace à mon fils, je sais qu'il m'écoute. Bonne fin d'année scolaire, ça approche, ça y est, je sais qu'ils sont tous dans les révisions de bac et tout déjà, donc à tous ces écoliers qui vont galérer.
Bon courage. Il ne faut pas regarder trop la NBA.
Moi, je fais une dédicace aux arbitres quand même, parce qu'ils ont pris cher pour hein, qu'on reste tous dignes et puis on s'amuse, on va dans les salles, on s'amuse, tout se passe bien.
Ouais.
Voilà, il y a des matchs partout normalement, encore ce week-end, il y a ce week-end et le week-end prochain. Après, la saison sera finie, alors allez dans les salles, amusez-vous bien.
Les salles sont pleines de basket, les salles sont pleines.
Allez, une grosse bise. Salut, poteau.